SILAB,
en partenariat avec Rennes Métropole,
présente
Jeunesse des possibles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous qui êtes derrière vos postes de radio, attendez avec hâte l'émission proposée par Rennes Métropole, la Jeunesse des possibles. C'est maintenant, il est 13h. C'est Caroline et bienvenue. À ma gauche sont installées Nathalie Pasquet, adjointe au maire, déléguée à la jeunesse, au sport et aux loisirs à Saint-Grégoire, et Denis Duguet, responsable jeunesse à la ville de Saint-Grégoire. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes venus nous parler de la démarche entreprise à Saint-Grégoire afin de proposer un conseil consultatif jeunesse à la ville de Saint-Grégoire. Vous nous en direz quelques plus dans quelques instants. À ma droite se trouve Ariane Cousin, ma collègue à Rennes Métropole chargée de mission lutte contre les discriminations, qui nous parlera d'une enquête lancée il y a quelques semaines déjà et qui est encore en cours en ce moment. Cette enquête s'adresse à toutes et à tous. Ariane, bonjour.
Bonjour.
Tu nous en diras quelques mots dans quelques minutes. Puis Paul Rubion, chargé de mission jeunesse, spécialiste des étudiants, des pratiques festives des jeunes et de leur bien-être. Tu nous présenteras la Piki, donc petite mallette surprise pour toutes vos soirées. Bonjour Paul.
Bonjour.
Et Gaëlle Rougier est parmi nous, élue à Rennes Métropole, vice-présidente déléguée à la jeunesse et à la formation. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Merci à tous d'être là. Vaste programme aujourd'hui. Alors on commence maintenant. C'est parti pour 30 minutes de Jeunesse des possibles. Alors, les conseils d'enfants et de jeunes, qu'est-ce que c'est exactement ? Comme leur nom l'indique, ce sont donc des groupements d'enfants et ou de jeunes qui permettent de représenter ces derniers, de leur laisser une place dans la vie de la cité, de les encourager à participer à la prise de décision d'une collectivité. Il en existe plusieurs types, l'âge des représentants peut varier, la fréquence ou le mode de nomination des conseils également. Ça peut changer d'une collectivité à l'autre, de même pour la force des décisions que les jeunes prennent, puisque ça peut aller de la concertation à la consultation. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous deux représentants de Saint-Grégoire. Nathalie, vous êtes adjointe déléguée à la jeunesse. Depuis combien de temps le conseil a été mis en place à Saint-Grégoire ?
Alors le conseil consultatif de la jeunesse, il a été mis en place pour la première fois en 2012. Nous avions auparavant, depuis 20 ans maintenant, un conseil municipal des jeunes, donc pour les 8-12 ans, et nous avons choisi de compléter ce dispositif en étendant donc aux classes d'âge qui venaient après. L'idée c'est de ne pas avoir justement d'interruption dans l'engagement citoyen. Donc on commence à 8 ans et on les emmène jusqu'à l'âge adulte.
C'était un besoin que vous ressentiez de la part des jeunes de continuer cet engagement ou bien vous êtes inspiré de ce qui existait aussi ailleurs ?
Un petit peu des deux, mais on sent que certains jeunes étaient demandeurs et nous étions aussi forcément demandeurs de les engager sur ce parcours citoyen d'une part. Et c'est toute la démarche d'un parcours autonomie qu'on voulait accompagner, encadrer. Voilà.
Et Denis, vous qui êtes référent jeunesse, pouvez-vous nous présenter un peu plus en détail le fonctionnement de ce conseil, ce qui s'y passe et peut-être ce qui fait une spécificité à Saint-Grégoire par rapport à ce qui peut exister ailleurs ?
Alors donc, concernant ce conseil, il est issu de jeunes, hein, donc on a 15 jeunes qui participent à ce conseil, donc des jeunes âgés de 12 à 17 ans, ils sont bénévoles, ils viennent volontairement sur ce type de conseil. Ensuite, en fait, en ce qui concerne l'accompagnement, donc on a une réunion par mois qui a lieu le samedi matin, particulièrement. On travaille avec eux sur de la méthodologie de projet, quoi. Donc on part de leurs idées pour réaliser un projet, ensuite transformer en action concrète, quoi.
Et vous avez des exemples de projets qui ont été menés à bien par les jeunes ?
Oui, hein, y en a plusieurs. Je peux parler du dernier projet qu'on a réalisé, notamment la fête du jeu qui a eu lieu le 27 avril. Et donc on est bien parti en fait de l'idée des jeunes, quoi.
Et tous les habitants ont participé à cette fête du jeu ou c'était plus tourné vers les jeunes ?
Alors non, les objectifs en fait c'était, on voulait que ce soit une manifestation intergénérationnelle, on voulait amener les familles à jouer ensemble et tout ça a été une très belle réussite puisque le samedi 27 on a eu 550 personnes à s'être déplacées sur cet après-midi qui avait lieu de 14h jusqu'à 20h.
Et du coup, pour déterminer un peu les projets, ils sont tout à fait autonomes, ils s'appuient, eux, sur les besoins des habitants. Comment est-ce que vous les accompagnez
alors,
tous les samedis?
Ce qui se passe, enfin, c'est que... Alors, ce qui se passe très souvent, les projets, ils émergent au mois de septembre. Donc on part de leurs idées. Donc là, c'était l'idée de jeunes de pouvoir réaliser une fête du jeu. Ensuite, on a sondé la population, puisque c'était important que le projet soit viable. Et ensuite, on les a accompagnés sur la méthodologie de projet, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré des professionnels, donc notamment les responsables de la ludothèque de La Touche. Ils ont rencontré aussi des personnes de la maison de quartier de la Bélangerie qui, eux, avaient déjà réalisé ce type de manifestation. Et ensuite, en fait, on a défini le projet. Donc, ils ont fait une description, on a travaillé sur les objectifs, ainsi que sur les moyens qu'on met en œuvre, un plan de communication. Donc, ils ont rencontré la responsable de communication pour établir le plan de communication et un plan d'action. Et puis, on a établi avec eux une grille d'évaluation, quoi. C'est un véritable accompagnement et on part vraiment de leurs idées pour réaliser ce type de projet, quoi.
Et en partenariat avec différents services à Saint-Grégoire, du coup, vous parliez de la com, mais potentiellement, vous êtes aussi la porte d'entrée, mais vous leur ouvrez, vous leur donnez accès, en fait, à la collectivité pour pouvoir effectuer leurs projets.
Tout à fait, oui. Et il faut savoir aussi que, avant que ces projets puissent émerger, donc ils sont présentés aux élus. Donc il y a un petit exercice qui est fait avec eux et c'est vraiment très chouette, quoi, très sympa. Il y a un bel échange qui s'opère, quoi.
Et du coup, eux, ils en pensent quoi, les jeunes, de cet exercice avec les élus? Ça leur paraît compliqué, ils apprécient?
Ils apprécient. Après, Nathalie, tu pourrais peut-être en dire un peu plus.
Alors, j'allais dire, souvent, la première fois, ils sont un petit peu impressionnés.
Oui, ce qui est normal.
Et indépendamment de l'âge, hein, il y a, je pense, le caractère du jeune qui est essentiel sur ce point-là. Mais très vite, il y a une relation de confiance, je pense, qui se noue entre eux et nous. Hein. Mm. Et c'est vraiment une occasion pour eux d'échanger avec des adultes qui ne sont ni leurs parents, ni leurs enseignants. On ne les juge pas. On est là, au contraire, pour les accompagner, encourager l'initiative d'un groupe de jeunes, hein, qui fait quelque chose donc pour eux, mais aussi pour l'ensemble de la commune, à l'image de ce qui a pu être fait sur la fête du jeu, où trois générations se sont rencontrées autour d'un événement.
Et le retour que vous font les habitants de ce conseil de jeunes, est-ce qu'ils en ont entendu parler? Ils trouvent ça intéressant? Est-ce qu'ils peuvent y avoir accès parfois?
Alors le retour, je dirais que c'est plus facile de communiquer sur le conseil des enfants, parce que les lieux de scolarisation sont moins différents. Oui. Après, sur le conseil des jeunes, la rencontre avec les familles se fait aussi dans le cadre d'autres activités, comme les séjours ou d'autres événements jeunesse. Et c'est quand même toujours quelque chose de très valorisant pour les enfants qui en ont fait partie, de pouvoir communiquer sur les actions qu'ils ont pu mener à bien au sein de ces instances.
Mais pour eux, c'est sûr que c'est valorisant du coup, de pouvoir mettre en lumière leurs projets. Et du coup, si vous deviez nous donner, on va dire, une difficulté auquel vous avez fait face pour mettre en place ce conseil, ou en tout cas dans le fonctionnement de ce conseil, quel serait-il ?
Alors la difficulté, c'est plus en termes de communication, puisque lorsqu'on leur adresse des mails pour les réunions, donc il faut les relancer à plusieurs reprises, c'est juste sur cet aspect-là. Après, on a quand même la chance d'avoir des jeunes qui sont dynamiques, qui se rendent disponibles. Au niveau des taux de présence, c'est quand même 80%, sachant qu'on a 14 jeunes qui sont impliqués. Sur ces 14 jeunes, on a majoritairement 10 filles, on a 10 filles et 5 garçons. 7 lycéens et 8 collégiens, donc il y a une bonne mixité, et c'est intéressant et ça les permet de mûrir petit à petit, quoi.
Et du coup, de ce que vous observez, c'est les mêmes jeunes qui ont fait partie du conseil d'enfants qui poursuivent, ou bien il y a de nouvelles personnes qui s'investissent chaque année au sein du conseil de jeunes?
Non, pas forcément. C'est-à-dire que cette année, en fait, puisqu'on a opéré en fait un changement de groupe, puisque en fait les jeunes restent à peu près sur entre 2 et 3 ans sur le conseil consultatif jeunesse, et là on a deux jeunes du CMJ qui ont intégré le groupe, quoi.
Oui, donc c'est assez mixte en termes d'expérience de conseil, en tout cas.
Tout à fait.
Juste pour dire que voilà, c'est pas parce qu'on a arrêté le premier train du conseil municipal enfant qu'on est perdu définitivement pour les conseils représentatifs de la jeunesse. On peut entrer à tout moment, quoi.
D'accord.
En fonction de tout l'envie, c'est l'envie qui prime, je pense.
Et d'ailleurs, pour être nommé au sein de ce conseil, comment est-ce qu'il faut faire ?
Alors, c'est très simple. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, ce sont des jeunes qui sont volontaires. Hein, donc, ce qui se passe, en fait, ce sont des jeunes très souvent qu'on rencontre soit sur les séjours, soit au niveau de l'accueil. On a deux accueils. On a un accueil qu'on fait à la Ricoquet pour les ados, par exemple. Et c'est ces instants-là où on échange avec eux, on leur explique comment ça fonctionne. Et puis, il y a aussi le témoignage de ceux qui ont participé avant sur ce type de conseil. Quoi. Et donc, ça leur donne envie de pouvoir participer, de s'investir dans la ville. Quoi.
Bah merci pour ce témoignage. Gaëlle Rougier, tu es élue donc à Rennes Métropole, déléguée à la jeunesse et à la formation. Tu connais la démarche de ces conseils d'enfants et de jeunes. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce type de participation de jeunes ou en tout cas vu d'autres villes qui en mettaient en place ?
Ben moi, personnellement, je n'ai pas expérimenté, malheureusement, je n'ai pas encore eu ce plaisir, parce que, effectivement, moi, je suis élue rennaise, et Rennes n'est pas dotée de conseils d'enfants ou de jeunes, pour l'instant, en tout cas. Mais effectivement, il y a une dizaine de villes dans la métropole qui ont des conseils d'enfants et de jeunes. Et puis, la métropole a adhéré dernièrement à l'ANASEJ, l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Et dans le cadre de manifestations nationales de cette association, j'ai effectivement vu fonctionner des conseils d'enfants et de jeunes, d'ailleurs avec des âges très différents et des modèles très différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est aussi la diversité. Il n'y a pas de modèle unique. Chaque commune crée quelque chose en partant de ce qui existe déjà, du lien avec les associations, du lien aussi avec les enfants, avec les familles. Et on construit quelque chose qui ne ressemble pas au modèle de la ville d'à côté. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est d'observer toute cette pluralité et toute cette richesse dans les formes, dans les âges aussi, qui sont les modalités aussi de participation. Enfin, il y a des communes qui sont sur des choses plus institutionnalisés, qui se rapprochent plus du fonctionnement d'un conseil municipal classique. Et puis, il y a des communes qui vont vers des choses beaucoup plus informelles. Et voilà, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans ces conseils, c'est que souvent, on y va avec l'idée, quand on est élu ou quand on est une collectivité, de faire participer les jeunes. Il y a une espèce d'injonction aussi, c'est-à-dire les jeunes doivent participer. Et donc, on va les chercher et on se demande toujours comment amener les jeunes un petit peu vers l'institution et comment les faire participer. Mais au final, ce que ça produit, c'est que ça change beaucoup aussi le regard. Mais ça, c'est vrai pour tous les processus de participation. Ça change aussi beaucoup le travail des services, le travail aussi de l'élu au sein d'une collectivité. C'est-à-dire que le fait de faire participer les habitants, et notamment des jeunes, qui sont sur des temporalités différentes, qui ont des demandes bien particulières, qui ont des approches aussi bien particulières, ça permet aussi de se remettre en question aussi quand on est élu jeunesse dans une commune, quand on est aussi responsable d'un service jeunesse ou responsable d'une MJC, ça change les processus aussi en interne de la collectivité. C'est ça qui est très très riche.
Et tu parlais de l'ANASEJ. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous présenter ce que c'est exactement l'ANASEJ ?
L'ANASEJ, c'est une association loi 1901 d'éducation populaire qui promeut la participation des enfants et des jeunes à la décision publique. Et ils ont tout un arsenal pour accompagner justement les collectivités. Alors, soit dans la création de conseils, quand elles n'en sont pas dotées, soit parfois pour renouveler aussi, pour donner un second souffle quand il y a besoin. Parce que c'est difficile, c'est un investissement demain d'avoir un conseil d'enfants et de jeunes sur une commune. Ça demande de l'investissement des jeunes, ça demande de l'investissement aussi des collectivités pour accompagner ça. Et puis l'ANASEJ propose des outils méthodologiques, puisqu'il y a quand même des méthodes d'animation, et aussi des rencontres qui sont des moments d'échange de bonnes pratiques, aussi de découverte de ce que les autres villes font, de ce qui marche, puis de mettre en commun aussi ce qui marche pas, enfin les difficultés aussi. Donc il y a eu par exemple en octobre le congrès de l'ANASEJ, et c'était très intéressant parce que là on y va, il y a un parcours élu, donc les élus sont invités, mais les jeunes viennent aussi aussi avec, avec les responsables dans les services de ces conseils. Et chacun, on travaille, chacun de notre côté, et puis on mutualise, on croise avec les jeunes à certains moments, on met en commun sur différentes thématiques. On a travaillé, là, c'était en octobre, c'était à Paris. Donc, en plus, il y a le côté découverte de la capitale, enfin, de la ville de Paris, pour beaucoup de jeunes. La découverte, voilà, de l'altérité, des autres jeunes, c'est aussi une mise en réseau de ces conseils de jeunes. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les enfants et les jeunes qui participent à ces rencontres. C'est tout aussi intéressant pour les élus, puisque c'est toujours riche d'être en réseau et de se nourrir aussi des expériences des uns et des autres.
Et en parlant de réseau, est-ce que vous êtes en lien à Saint-Grégoire avec d'autres conseils d'enfants et de jeunes de la métropole ?
Alors, pas directement en tant qu'instance. Par contre, effectivement, il y a des actions qui peuvent être partagées.
D'accord. Et vous trouvez effectivement, comme le disait Gaëlle, que ça enrichit aussi votre manière de faire ou en tout cas voilà, de pouvoir échanger sur vos difficultés et vos questionnements ?
En ce qui concerne les services jeunesse, oui, puisque ça nous permet d'être en adéquation avec leurs demandes et leurs besoins. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ce que je tenais à ajouter aussi par rapport à ça, c'est que quand les jeunes, en fait, s'investissent au niveau du CCJ, c'est valorisant pour eux, ça donne une image plutôt positive de la jeunesse, et ça, c'est important. Et puis, le fait aussi de rencontrer les élus, c'est valorisant pour eux, tout simplement. Et puis aussi, ça permet de créer du lien, et ça permet aussi d'avancer, quoi. Et...
Ça nous permet des fois aussi en tant qu'élus de relativiser nos a priori sur certaines questions, sur nos modes de communication, où on a bien vu notamment avec les jeunes du CCJ que malgré notre investissement en tant que... Que ville, quoi, voilà, dans les réseaux sociaux, nous ne touchions pas du tout les jeunes. Hein, vous n'étions pas sur les bons vecteurs, on va dire. Donc voilà, ça nous a amené à corriger sensiblement nos façons de communiquer aux jeunes, puisque le but aussi, c'est que les jeunes fassent connaître les actions de la municipalité auprès des jeunes.
D'accord. Bon, en tout cas, merci de vos témoignages. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Jeunesse, t'es possible. c'est Caroline, vous écoutez La Jeunesse des Possibles de Rennes Métropole. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux dans le studio pour parler de l'engagement des jeunes au sein des conseils d'enfants et de jeunes. Nous avons avec nous deux représentants de la ville de Saint-Grégoire pour nous parler de leur expérience à Saint-Grégoire, et également Gaëlle Rougier qui nous présentait et nous parlait de l'ANASEJ. Et puis deux collègues, la mission égalité et la mission jeunesse sont aussi avec nous. Donc voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc Nathalie, vous êtes adjointe à la mairie de Saint-Grégoire, déléguée à la jeunesse. Vous nous présentiez les conseils de jeunes. Qu'est-ce que vous trouvez que ça apporte au dynamisme de la ville d'avoir créé ce conseil? Voilà, c'est ma question.
Alors, je pense que d'abord, ça a permis d'instaurer un vrai dialogue entre les jeunes et la municipalité, ce qui est vraiment essentiel. Ça permet de valoriser l'action des jeunes dans ces instances. Ce n'est pas juste pour occuper les jeunes, quoi. C'est vraiment des projets qui n'auraient pas vu le jour sans leur implication.
Et du coup, donc porter, accompagner des projets, mais également les sensibiliser à des questions de démocratie, d'engagement citoyen. C'est vrai qu'on discutait entre nous pendant la petite pause musicale et vous disiez qu'il y avait des jeunes qui s'engageaient d'abord au conseil d'enfants et de jeunes et puis par la suite au sein du conseil municipal.
Alors on a l'exemple à Saint-Grégoire, je vais nommer Maxime Gallier, donc qui est adjoint aujourd'hui à la ville de Saint-Grégoire et qui était dans le premier conseil municipal des jeunes il y a une vingtaine d'années. Comme quoi ça sensibilise quand même beaucoup au parcours citoyen. Et de même, parmi tous les jeunes qu'on a suivis donc, au CCJ, on en retrouve un certain nombre dans les bureaux étudiants, qui s'engagent aussi auprès de nos associations sportives, citoyennes, diverses associations en fait voient des membres des bureaux qui sont d'anciens élus de nos instances jeunesse.
Donc c'est vraiment un premier pas vers un engagement un peu global sur un territoire.
Tout à fait, oui.
Et alors du coup, si vous aviez des conseils ou un conseil à donner à une ville qui souhaiterait mettre en place un conseil d'enfants et de jeunes, même si on le soulignait en première partie d'émission, tous les conseils d'enfants et de jeunes ne se ressemblent pas parce que ils s'adaptent un peu aux besoins et aux envies, en fait, surtout des jeunes sur un territoire donné. Mais est-ce que vous avez quand même, une méthode ou des conseils à communiquer aux autres collectivités de Rennes Métropole?
Pour moi, le premier conseil, ce serait de leur faire confiance, parce qu'il y a une richesse qui vient des jeunes. On l'a vu notamment lors des dernières élections du conseil municipal des jeunes, donc des plus petits. Là. Les thèmes qui sont sollicités par ces jeunes nous bousculent un petit peu, et c'est très bien. On va en parler tout à l'heure, notamment la lutte contre les discriminations, pour l'égalité hommes-femmes. Toutes ces thématiques sont extrêmement présentes.
Ça fait une très belle transition, pas du tout travaillée. Avec nous, donc Ariane Cousin, chargée de mission lutte contre les discriminations. Ariane, donc, tu es ici pour nous parler d'une enquête qui a été lancée à l'échelle de Rennes Métropole. Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de l'objectif et ce qui est mis en place?
Oui, tout à fait. Donc, c'est l'enquête qui s'appelle « Enquête d'égalité ».
Très bon mot.
Voilà. Donc, c'est une sollicitation au départ du Conseil consultatif Rennes au pluriel pour l'égalité contre le racisme et les discriminations qui souhaitait qu'on étudie la question du ressenti discriminatoire. Quels sont les sentiments, les émotions que vivent des personnes au moment où elles sont discriminées et quelles sont les conséquences sur leur vie, leur travail, leur santé au quotidien. Donc la mairie et Rennes Métropole se sont engagés dans cette enquête suite aux recommandations du Conseil Rennes au pluriel. Et l'enquête est en ligne du 15 avril au 31 mai. Donc vous avez encore largement le temps d'aller la voir sur le site de la Fabrique citoyenne et de relayer par tous les réseaux que vous souhaitez cette enquête. C'est très simple, en fait. C'est un questionnaire en ligne qui va vous demander ce qui vous est arrivé en termes de discrimination. Tout critère, hein, racisme, sexisme, en fonction de votre âge, en fonction de votre origine géographique, en fonction de vos revenus, enfin voilà, tout ce que vous avez ressenti comme une discrimination. Et ensuite, de voir quelle influence ça a sur votre parcours de vie et quelle influence, comment ça vous a marqué. Et comment ça peut aussi vous donner envie de vous engager comme citoyen ou pas. Voilà. Donc c'est ça qu'on étudie à travers cette enquête.
Et alors tous et toutes peuvent participer à l'enquête, il n'y a aucune restriction, donc vraiment tous les habitants de Rennes Métropole et habitantes de Rennes Métropole peuvent se prononcer.
La seule limite c'est d'avoir 15 ans.
D'accord.
Ouais. Après il n'y a pas de limite d'âge à l'autre bout, j'allais dire, et de d'habiter Rennes Métropole ou d'y travailler ou d'y étudier en fait. Voilà, de vivre sur le territoire.
Et alors là, à mi-parcours de l'enquête, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez déjà un peu une vision du taux de participation ? Ou est-ce que vous avez des observations de certaines personnes qui auraient rempli le questionnaire ?
Alors oui, au bout de 3 semaines, on a 1200 participations, ce qui veut dire que ça rejoint les préoccupations des habitants de la métropole de pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. On voit que beaucoup de personnes, les critères les plus importants, c'est le sexisme pour l'instant et le racisme, suivi de très près par l'âge. Mais on attend encore une participation étudiante plus importante et donc les choses vont bouger sans doute sur les critères de discrimination cités. On est très étonnés parce qu'il y a quand même une possibilité de s'exprimer librement, c'est pas un questionnaire fermé, et on trouve des remontées sur le racisme d'une violence assez impressionnante sur notre territoire.
Des personnes qui remplissent le questionnaire et qui du coup envoient des...
Mais en fait, dans le questionnaire, il y a des questions fermées, on vous demande ce que vous avez vécu, à quel moment, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des questions ouvertes, où les gens peuvent raconter ce qui leur est arrivé.
Ah oui, d'accord, des témoignages.
Des témoignages, en fait. C'est vraiment une enquête sur le ressenti discriminatoire, pas que sur les faits. C'est intéressant de savoir que, par exemple, on vous a refusé l'accès à une boîte de nuit parce que vous étiez noir, homosexuel ou autre chose. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est de savoir ce que vous en avez ressenti et ce que ça a changé dans vos pratiques au quotidien, de changement de pratiques culturelles ou de loisirs, par exemple. Et surtout, comment ça s'est passé. Et quand on entend ce que les gens nous rapportent dans l'enquête, on se laisse toujours surprendre de façon négative par la violence des propos.
Oui.
Donc voilà, après, de la même façon sur l'homophobie, de la même façon sur la pauvrophobie. Voilà. Donc, on est impatient de clore l'enquête pour savoir ce qui va en ressortir et comment on peut travailler au niveau des politiques qu'on mettra en place par la suite pour améliorer cette qualité de vie sur le territoire.
Et les résultats seront prêts à quel moment, du coup, cette année, plutôt l'année prochaine ?
Alors, on s'est engagé pour que les résultats soient communiqués fin juin.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on clôture l'enquête fin mai et voilà, les résultats seront communiqués fin juin. Dans le questionnaire, vous pouvez laisser vos coordonnées si vous souhaitez être invité aux restitutions publiques.
D'accord.
Qu'auront lieu. Pour l'instant, il y a plus du tiers des personnes qui ont envie d'être là, donc ça sera des... On va voir comment on organise ça encore, mais ça va être des temps riches. Et de toute manière, les résultats seront aussi en ligne sur le site de la Fabrique Citoyenne.
D'accord. Donc n'hésitez pas à relayer. Et puis les étudiantes, étudiants qui nous écoutent, allez sur le site de la Fabrique Citoyenne pour compléter cette enquête. J'avais une petite question concernant le conseil à Saint-Grégoire. Denis, vous qui accompagnez les jeunes, est-ce qu'il y a des sujets, donc on parlait là de la lutte contre les discriminations, mais d'autres sujets comme la santé ou voilà, d'autres thèmes en fait qui ressortent assez fréquemment, qui pourraient en quelque sorte vous donner une tendance ou des préoccupations actuelles qu'auraient particulièrement les jeunes ?
Alors c'est une vaste question.
Il y a beaucoup de préoccupations.
comment dire ?
Parce que là, effectivement, il y avait, vous disiez, la lutte contre les discriminations. C'est vrai que, pour le coup, tout le monde se semble concerné. Mais est-ce que les jeunes de Saint-Grégoire vous disent, nous, voilà, ce qui nous intéresse, c'est plutôt, je sais pas, de monter des projets autour du sport ou des loisirs, ou est-ce que les questions de santé, voilà, il y a des questions qui reviennent fréquemment. Après, peut-être qu'il y a tellement de choses que c'est difficile aussi de... Mais c'est une question que je me posais.
Alors disons que la question qui est revenue, c'est plutôt là, c'est à l'étage en dessous, hein, c'est plutôt au niveau du CMJ, où on a des jeunes en fait qui sont sensibilisés par rapport aux populations DIS. Mmh. Donc là, c'est un sujet en fait qu'on va aborder au niveau du CMJ, quoi. Donc voilà, donc c'est pour les plus jeunes.
D'accord, donc vous êtes quand même bien à l'écoute des questions que les personnes peuvent se poser, enfin les jeunes, pour pouvoir y répondre. Mmh. Et alors du coup, je vous demandais pour la santé, parce que, nouvelle transition, Paul Rubion est avec nous aujourd'hui, donc Paul Rubion qui travaille à la mission jeunesse de Rennes Métropole, et on le disait tout à l'heure, Paul, tu t'es chargé particulièrement de tout ce qui est pratique festive des jeunes, leur bien-être, leur santé, et tu nous présentes aujourd'hui l'Apikit. Donc l'Apikit, qu'est-ce que c'est ?
Et oui, Caroline, la ville de Rennes et Rennes Métropole se soucient bien évidemment de la santé des jeunes et plus largement de leur bien-être, comme tu disais, notamment en milieu festif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Apikit. Donc c'est quoi l'Apikit ? Eh ben, c'est un dispositif de prévention qui est soutenu par la ville de Rennes, mais qui est à destination de tous les jeunes rennais et métropolitains. C'est tout simplement un kit de prévention pour préparer ses soirées en prenant soin de ses amis. Voilà. Concrètement, je suis jeune, je vais organiser une soirée chez moi, ou une soirée dans un cadre associatif, mais j'ai vraiment envie que tout se passe bien. Pour les participants à cette soirée, bah, il me suffit d'aller retirer un Apikit au 4 bis, Information Jeunesse, donc, qui situe Cours des Alliés, à côté des Champs Libres, à Rennes. On trouve quoi dans cet Apikit ? Eh bien, c'est variable, ça va dépendre du type de soirée et puis aussi des besoins des organisateurs. On peut y trouver par exemple des préservatifs, des éthylotests, des bouchons d'oreilles, des contacts aussi utiles, des informations pratiques. En fait, il est prévu aussi systématiquement un accompagnement aussi des organisateurs de la soirée par les animateurs de prévention santé du 4 bis qui vont pouvoir échanger avec les organisateurs de la soirée un petit peu autour de cet Apikit. C'est vraiment une sensibilisation en amont qui va permettre de leur donner les conseils utiles et adéquats pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Par exemple, comment repérer les effets de produits psychoactifs sur une personne pour essayer de réduire aussi les risques par la suite. Comment bien encadrer aussi les risques liés à une fête, les nuisances sonores, les risques sexuels aussi. Et voilà, autre exemple, les situations de harcèlement. Et en parlant de harcèlement, voici une petite astuce qui peut aussi résoudre un certain nombre de situations problématiques. Et qui pourra être proposé par exemple dans cet Apikit, c'est le code cocktail. Je ne sais pas si vous connaissez le code cocktail. Alors je vous explique, en amont de la soirée, donc c'est les organisateurs qui se mettent d'accord avec les personnes qui sont au bar quand il y a un bar, sur un cocktail spécifique qui sera le code cocktail de la soirée. Par exemple, on peut prendre le jus de tomate. Durant la soirée, une information va être diffusée concernant ce code cocktail afin que tous les participants sachent que le code cocktail, c'est le jus de tomate. Si une personne a le sentiment à un moment donné dans la soirée d'être harcelée, elle se rapprochera alors du bar pour commander ce fameux cocktail, donc commander un jus de tomate. Les personnes au bar qui seront, elles, alertées en amont, elles feront immédiatement le lien avec les organisateurs de la soirée et avec le personnel de sécurité si besoin pour résoudre cette situation problématique. Mmh. Voilà, donc s'il y a vraiment un message à retenir, c'est vraiment de prendre soin de soi et de ses potes pour passer une bonne soirée.
Merci beaucoup Paul, je vois que l'heure file, c'est bientôt le moment de nous quitter. Est-ce que la ville de Saint-Grégoire, vous voulez là en quelques mots nous parler d'un projet à venir concernant les jeunes ou Gaëlle, ou bien est-ce que nous passons immédiatement au point actu ? Point actu ? Allez, c'est parti ! La nouvelle édition de Rennes au pluriel, le rendez-vous de l'égalité et de la diversité culturelle. Dès le 10 mai 2019, différents formats de rencontres seront proposés à Rennes pour affirmer le caractère pluriel et métissé de la ville de Rennes et les valeurs d'égalité et de non-discrimination. Au programme 17 rendez-vous à la croisée d'expressions artistiques, culturelles et citoyennes, qu'il s'agisse de rencontres, de tables rondes, d'ateliers de lecture, de projections, de nombreux rendez-vous seront proposés pour notamment déconstruire, interroger les préjugés, les stéréotypes et conscientiser la population rennaise aux enjeux liés à la reconnaissance de la diversité culturelle. Vous pouvez sur internet, sur le site de la ville de Rennes, vous procurer le programme. Alors, prochaine NDKJ, nous profitons de la présence de Paul aujourd'hui pour nous présenter celle qui aura lieu le jeudi 16 mai.
Et oui, prochaine NDKJ, donc le jeudi 16 mai à partir de 18h30. Cette NDKJ se déroulera dans le quartier de la Courrouze et plus précisément aux Cartoucheries. Donc c'est une soirée qui est organisée par deux jeunes femmes en service civique, Apolline Lelièvre et Annabelle Kioulou. L'objectif, c'est de favoriser le lien social sur ce quartier de la Courrouze par le biais de pratiques artistiques et culturelles. Au programme, entre 18h30 et 21h, des ateliers de linogravure, de graffiti végétal et une slackline. Et à partir de 21h, un concert de Boubacar Kafando et le Zahama Nouma Band des percussions africaines. Voilà, on vous attend très nombreux le jeudi 16 mai.
Et puisque nous avons parlé santé, jeudi 16 mai encore, rendez-vous pour un nouveau jeudi de la santé. Il s'agit de rendez-vous mensuels. Tous les sujets peuvent être abordés, qu'il s'agisse de prévention, de pathologie ou de traitement. Chaque thème qui touche souvent un grand nombre de personnes sont traités par le biais de conférences et il est possible de poser toutes vos questions. Et donc jeudi 16 mai, le thème sera le pied. Donc sans plus attendre, réservez votre place à l'espace santé Olivier Saboureau. Voilà, vous pouvez appeler le 02 23 62 22 11 ou envoyer un mail à dsph@ville-rennes.fr. Et enfin, et pour rappel, n'hésitez pas et surtout d'ailleurs participez à l'enquête d'égalité. Ariane nous en a parlé il y a quelques instants. La mission égalité de Rennes Métropole s'engage dans une enquête sur le ressenti des discriminations vécues par ses habitants et habitantes. Vous êtes tous et toutes concernés, n'hésitez pas à vous prononcer. Allez sur le site de la Fabrique Citoyenne. Alors merci à tous de votre participation, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, vous pourrez prochainement écouter le podcast pour retrouver les différentes informations que nous avons évoquées ensemble. Merci à tous, merci à Radio Scilab et à très vite.